Au quotidien, 5e édition.
Bonjour, vous êtes au Canal M, on est vendredi, le 2 septembre, à l'émission Au quotidien, 5e édition. Bonjour Francine Forget.
Bonjour Yvan Delaurier.
Comment vous allez bien?
Oui,
très bien, merci. On travaille fort. J'expliquerai ça probablement dans le courant de l'émission. Mais vous?
Oh, bien, moi aussi, je travaille fort, mais ça ne m'empêche pas de bien aller.
J'espère. Quand on est à la retraite comme nous et qu'on travaille fort, il faut que ça soit plaisant.
Des fois, on a des petits questionnements sur le mot « retraite ». Je pense à Nathalie Petrovski, je pense l'autre jour qu'elle disait que ça n'existe pas, là, je pense, ce mot-là dans son vocabulaire, parce qu'elle a continué quand même pas mal. C'est juste qu'on fait des choses de façon différente.
Oui, oui, oui.
Et aussi, c'est que, je dirais, on travaille moins quand même.
Oui, mais il y a des
généralement.
Périodes... Oui. Il y a des périodes d'affluence, si on veut. Et on a à la console avec nous aujourd'hui encore Maurice Bolduc. Bonjour Maurice.
Oui, bonjour.
Vous venez comment le matin quand vous venez ici?
Ça dépend, c'est ce temps-ci, je fais le fainéant, donc je viens en métro.
Ah, oh, ça c'est du fainéantisme, venir en métro.
Puis oui, parce que je pourrais prendre mon vélo.
Ah oui, oui.
Oui, 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 dans ce sens-là, je suis fainéant.
Alors, Francine, le 2 septembre, à mon époque à moi, le 2 septembre, ça voulait dire que c'était la dernière semaine de vacances avant d'aller à l'école. Parce que à ce moment-là, l'école commençait le lendemain de la fête du travail.
Exactement. Mm-hmm. Oui.
Alors, moi, j'ai toujours... Mon cœur saigne toujours un petit peu quand, comme cette semaine, je vois des enfants aller à l'école, puis c'est encore le mois d'août.
Mais là, je vais faire un commentaire éditorial.
Éditorial?
À votre époque, l'école, elle servait à instruire les enfants. Aujourd'hui, l'école sert à instruire et à éduquer les enfants.
Ah bon?
Alors, les programmes sont lourds.
Oui, oui.
Sont
oui,
chargés
oui.
Et on ne cesse de réclamer des ajouts.
Oui, oui. Et oui, vous avez tout à fait raison. Et même qu'on voudrait avoir plus d'histoire, plus d'éducation physique.
L'économie.
Oui, oui.
Bientôt, certainement qu'on va réclamer le retour de la bienséance, le retour du civisme, du respect des autres. Quand on regarde tout ce qui se passe, moi j'ai entendu cette semaine et j'ai lu sur les médias sociaux, effectivement, le fait qu'on réclame ce type d'intervention à l'école pour apprendre qu'on n'écrit pas n'importe quoi. Sur les médias sociaux, qu'on n'interpelle pas les gens de façon agressive. Etc., etc.
Mm-hmm. Donc, oui, Maurice.
J'ai une petite question. C'est pas en grande partie aussi la responsabilité des parents?
Voilà, j'aime le commentaire de Maurice parce que l'éducation relevait des parents.
Encore?
Peut-être. Peut-être.
Mais on ne lancera pas un débat parce qu'on n'a pas nécessairement beaucoup de temps, mais je vous rappelle, monsieur, madame, que à mon époque, ma maman, elle travaillait à la maison. La plupart des femmes étaient à la maison pour s'occuper de la maisonnée, qui était une tâche non rétribuée, mais non banale non plus. Alors, l'époque a changé. Il faut aussi considérer ça.
Alors, on y reviendra à un moment donné parce qu'il y aurait beaucoup de choses qu'on pourrait dire et on a autre chose aussi vous proposer. Moi, j'ai le goût ce matin de vous donner comme fait saillant, de vous parler cinéma. Pour deux choses, oui, on parle de la campagne électorale, on parle de toutes sortes d'affaires, mais je trouve que ça fait du bien hein, parce que la vie continue en dehors de ça. Et puis, il y a des choses rafraîchissantes, il y a des belles choses qui arrivent. Alors, moi, je vous parle de belles choses. La première, on a lu cette semaine et entendu une nouvelle à l'effet que les films Séville vont avoir une relève. Alors, pourquoi je vous parle
de ça?
C'est que rappelons-nous que les films Séville, qui étaient présidé par Patrick Roy, c'était le plus grand distributeur de films québécois.
Et français aussi, au Québec?
Ben moi, je vous parle québécois, parce que c'est de ça dont on parle.
Allons-y.
Jusqu'à la transformation de son mandat en juin. Alors, bref, les films Séville ont été comme dissolus. Et là, ont été dissous. Ouh, ont été dissous, ça va pas bien, je pense. Bref,
ben,
on a fermé.
Parce qu'on s'est corrigé, c'est
on,
bon.
on a fermé les films CVI. Et voilà que le milieu a dit, ben non, mais ça nous prend un distributeur important au Québec. Et il y a eu du financement du gouvernement du Québec, Fonds de solidarité, la Banque nationale du Canada, la SODEC, etc. Et c'est reparti, et encore avec M. Roy, qui sera à la tête du nouveau groupe. Et c'est rassurant. Alors, on verra comment ils vont récupérer le catalogue et tout ça,
parce qu'il
y avait un grand catalogue, mais c'est une bonne nouvelle.
Mais je ne sais pas si vous allez en parler, mais il s'est passé quelque chose aussi, Cinéma Beaubien du Parc et tout ça, il y a une nouvelle directrice qui a été...
Oui, il y a une directrice, effectivement, qui a été nommée, qui va continuer la mission de ces trois cinémas, mm-hmm. qui présentent des films qui ne sont pas nécessairement les plus... populaire. Quand je dis populaire, c'est qu'il n'attire pas d'emblée des masses. C'est aussi très intéressant. Et il y a beaucoup de films étrangers ou encore de langue française. Mm-hmm. Mon deuxième fait saillant, il est encore relié au cinéma et au cinéma réalisé par des réalisateurs québécois, parce qu'il y a plusieurs films qui sont réalisés par des réalisateurs québécois, mais qui ne sont pas nécessairement des films québécois. Mmh. Alors, si vous êtes comme moi, une passionnée de Dune...
Oh, vous êtes une passionnée
oui,
de Dune.
Oui, moi, la science-fiction, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Denis Villeneuve.
Oui.
Alors, cette semaine, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur YouTube. On a une nouvelle bande-annonce de Dune Part 2, Awakening. Oui, ça fait 7 jours que c'est là. Et on a hâte à 2023.
Est-ce que vous regardiez La course autour du monde?
Oui, j'ai déjà regardé ça. Et juste pour compléter, Yvan, Dune sera projeté dans le cadre d'un festival qui a lieu, en fait, ça s'appelle l'Estival, qui a lieu dans l'espace tranquille ce week-end. Et le 4 septembre, la présentation en plein air, c'est le premier film Dune de M. Villeneuve.
Oh! Je note, même si je ne pourrais pas y aller.
L'espace tranquille, juste pour le situer, oui. Là, c'est De Billets. Moi, j'ai De Billets avec TNM parce qu'on ne sait plus comment l'appeler. Il y en a qui disent que c'est le quartier des spectacles, mais l'autre jour, il y a quelqu'un qui cherchait, que j'ai justement rencontré. Alors, voilà. Okay. De Billets au TNM.
Moi, de mon côté, mes faits saillants, c'est des débuts. Donc, évidemment, moi, je travaille dans le domaine électoral. Alors, le début de la campagne électorale, pour moi, c'est le début d'un long parcours de 33 jours. Ensuite...
On est à quelle journée, là, déjà?
Oh, j'ose même pas.
La 28e?
La 5e, d'après Maurice, là-bas.
OK, ça va.
Oui, bien, ça a commencé dimanche.
Merci. OK,
que,
merci.
Oui, c'est la 5e.
Non, mais là, vous comprenez que je suis un petit peu...
Ben, c'est pour vous que
je dis. On va dire blagueuse.
Oui, c'est pour vous tenir au courant. C'était le début aussi du tournoi de tennis, le US Open. Et malheureusement, nos deux Québécois, Félix Auger-Aliassime et Mme Fernandez, ont gagné un match, mais ont perdu le deuxième. Mais il y a quand même Denis Shapovalov qui continue. Et je vous parlerai plus tard dans l'émission de Serena Williams. Et aujourd'hui... Ce soir, je pense que c'est à 7h30, mais je ne suis pas certain. Il y a 50 ans, je ne sais pas ce que vous faisiez il y a 50 ans, vers 19h30, on n'appelait pas ça 19h30 à l'époque, on disait
c'était 7h30 PM.
Hein? C'était le début de la série du siècle. Et on pensait tellement que le Canada allait gagner les 8 matchs de la série du siècle. Et les Russes même avaient joué là-dedans en disant « on est ici pour apprendre ». Et ils ont gagné. Puis le Canada menait 2-0 après 4 minutes de la première partie. Et ils se sont fait battre 5-3, il me semble, le premier match. Alors, on se remémore ces 50 ans-là. Pour le Canada, ça s'est bien fini, mais c'est aussi un moment marquant du hockey parce qu'à partir de ce moment-là, la façon de jouer au hockey et les joueurs de hockey, tout a changé.
Hier, il y avait une entrevue avec Penelope McQuaid et les deux qui étaient interviewés, c'était Serge Savard et Yvan Cournoyer.
Oui.
Et vous savez, ce qu'ils ont dit, c'est qu'après ça, ils ont appris dans la Ligue nationale, ils ont appris à se présenter au camp d'entraînement, prêts à jouer un match. Avant, le camp d'entraînement, c'était pour s'entraîner.
Oui, c'est ça, exactement. Et je ne sais pas si je dis une fausseté, mais je pense que Serge Savard n'a pas perdu un match de la série du siècle. Donc, les défaites du Canada, Serge Chavard n'était pas dans l'alignement, mais il faudrait que je fouille dans mes...
Il n'était pas toujours là, en tout cas, c'est ce que j'ai compris hier.
Oui, c'est ça. Et Francine, qu'est-ce qu'on regarde particulièrement dans notre émission d'aujourd'hui?
Alors, de mon côté, avec Marcel Dugas, comme il l'a annoncé la semaine dernière, le crédit social. Alors, ça va être mouvementé parce qu'ils ont le crédit social a une histoire mouvementée au Canada.
Surveillez vos dents.
Surveillons nos dents. Oui, c'est Camille qui avait perdu son dentier. Alors, peut-être qu'il va nous en parler. On va aussi parler du petit Robert, de nouveaux mots techno. Je vais vous parler de ça. À chaque édition, il y a toujours des nouveaux mots qui s'ajoutent, des mots technologiques, et de la chanson en langue des signes québécoise.
De mon côté, je vais parler avec Serge Hamelin. J'ai très hâte de cette chronique-là, faire son épicerie pour pas cher. Puis j'espère que ça ne sera pas juste des boîtes de conserve. Alors, on va écouter ça avec attention. Et je vais parler aussi avec Vanessa Anne Paré de Moi, les Pinières et Motricité Québec. Ils vont fêter, c'est leur souper spectacle, 75e anniversaire qui s'en vient. On va parler de ça et de plein d'autres choses. Allez, Maurice, on lance ça.
J'ai tant de regrets, tant de remords. Je me dégoûte, j'ai tous les torts. Mais si tu voulais juste une chance encore, je promets je ne suis plus le même. Je suis un autre dès que tu m'aimes. Si tu voulais, tout recommencerait.
Si tu veux.
Mais si tu me pardonnais, je changerais.
C'est du vent, du faux, les jolies notes de ton piano qui caressent et grisent avant de s'envoler.
Je t'offrirai mes îles au trésor.
Banalité des beaux rêves brisés.
Oh, souviens-toi de notre bonheur
et le taille de ma candeur. C'est comme une fin d'enfance déchirée.
Et c'était la chanson de Garou et Charlotte Cardin du Vent des mots, choisie par une personne que vous connaissez et que vous allez entendre tout de suite.
Oui, mais Yvan, c'est que Garou était un des animateurs de la Francofête. On n'en a pas parlé de la Super Francofête. Il représentait le Québec, Nolwenn Leroy, la France et Angélique Kidjo, le Bénin.
Oui.
Voilà.
Alors, c'était pour faire un petit clin d'œil à cet événement-là.
À cet événement-là. Bon, alors on revient dans l'actualité. Hein. On n'a comme pas le choix. Ça nous entoure, puis on vit avec ça. Et puis, il faut s'y intéresser, la trêve de plaisanterie. Avant de vous parler de la campagne électorale, je reviens sur une manchette de la Presse Plus. De plus en plus de profs s'en vont. Et on parle d'une réalité qui touche principalement Montréal. On dit que plusieurs professeurs décrochent de Montréal. Pourquoi? Parce qu'ils veulent s'en aller à l'extérieur, pas nécessairement parce qu'ils décrochent de la profession. Alors évidemment, ça amène une pénurie. Maintenant, la pénurie, elle est assez généralisée. Alors les enseignants ont le luxe de choisir où ils veulent travailler. Mm-hmm. Marie-Ève Moras en parle et elle donne quelques exemples de profs qui ont démissionné pour aller s'installer soit dans les Laurentides ou ailleurs. Le sujet du jour, vous vous en doutez bien, non seulement à la une de la Presse Plus, mais aussi dans les autres quotidiens, c'est le ton de la campagne électorale. Derrière ça, qu'est-ce qui justifie qu'on parle de ce ton où on accuse principalement M. Duhaime de canaliser la haine et la colère? C'est le fait que plusieurs, là ça s'accumule hein, de jour en jour, on a toujours de nouveaux cas de gens hein, qui se présentent, qui veulent une démocratie, qui veulent un discours, qui veulent des échanges et qui finalement sont harassés ou encore harcelés verbalement, principalement jusqu'à maintenant. Et on mm-hmm. espère que, je ne veux pas dire que c'est moins pire, mais on espère que ça va rester là. Et bon, on en parle de long en large dans tous les journaux. Dans la Presse Plus, il y a aussi un commentaire de Patrick Lagacé qui est assez dur envers de monsieur, Monsieur Duhaime.
Puis quand on ira au soleil, je vous parlerai de ça aussi.
Dans le Journal de Montréal, où on en parle, ce qui est intéressant, c'est qu'on situe ça dans un contexte plus large que la campagne électorale, puisqu'on fait référence à des plaintes qui sont en explosion depuis un certain temps. Des plaintes de signalement, justement, soit de harcèlement ou encore d'agression, de haine verbale sur les médias sociaux. Et on dit que les élus sont de plus en plus menacés. Les corps policiers enregistrent une hausse vertigineuse des signalements depuis 2020. Antoine Lacroix a fouillé le sujet pour le Journal de Montréal et ces hausses ont commencé beaucoup avec la mise en place des mesures sanitaires. En fait, c'est ce qu'on semble dire du côté des corps policiers. En 2020, la Sûreté du Québec avait recensé 286 signalements de propos menaçants. En 2019, 16.
Aïe, aïe, aïe.
Oui. Et l'année qui a suivi, donc 2021, 396 signalements. Et là, évidemment, avec la campagne électorale, ben on ne sait pas, on espère que ça va s'arrêter parce que sinon, c'est très difficile c'est très difficile d'avoir une conversation, comme on dit, de nos jours. Et la police de Montréal, qui constate aussi la même chose, invite les gens à ne pas banaliser la situation et à retenir ces faits-là et à conserver des preuves et à porter plainte. Et dans le Journal de Montréal aussi, il y a plusieurs commentaires de José Legault, la haine trumpienne qui est rendue chez nous, de Denise Bombardier, quelle étrange campagne électorale, de Philippe Léger, que Duhaime cesse de jouer à la victime. Mmh. C'est ça. On espère, M. Legault a fait un appel au calme, et on espère que tout le monde va se rappeler que c'est important.
J'écoutais Christian Dubé en m'en venant ici à la station et il mentionnait que c'est aussi très dur pour les familles. Les gens qui décident de mettre leur photo sur le poteau, comme on dit, c'est une chose, mais leurs familles sont pas vraiment impliquées là-dedans puis ils reçoivent des éclaboussures de ces choses-là.
Oui, et on va voir de plus en plus, je pense, sur des affiches électorales sur les, justement, ce qu'on retrouve sur les poteaux. On a commencé à écrire des mots que j'oserais même pas prononcer ici. Mm-hmm. Je vais terminer avec Le Devoir sur une note, je dirais, pas plus légère parce que c'est important, mais les intérieurs historiques délaissés. Jean-François Nadeau nous parle, en fait, d'une loi qui, la loi sur le patrimoine culturel, qui a été modifiée il y a un certain nombre d'années pour protéger les intérieurs exceptionnels, pas juste l'extérieur. Il n'y a aucune municipalité qui s'en est prévalue. Dino Bombarou d'Héritage Montréal dit qu'une seule exception, Westmount. Et l'édifice qui avait fait l'objet de cette exception, bien la ville de Westmount vient de revenir sur sa décision et a accordé un permis de démolition en juin dernier pour qu'on puisse refaire l'intérieur et ajouter une partie neuve à ce bâtiment d'époque qui était situé dans un secteur de l'île de Montréal où se concentrait le pouvoir colonial. La question à se poser, c'est pourquoi toutes ces municipalités n'ont pas utilisé ce droit de préservation du patrimoine à l'intérieur qui est aussi important. Oui. Peut-être parce que c'est moins visible, c'est ce qu'on laisse sous-entendre.
Okay. Et on s'en va du côté de Monique Kerouac. Monique, j'ai peur que les grandes stations de radio nous écoutent et allent vous faire des propositions pour votre chronique de l'Estrie canton de l'Est.
Vous me faites rire ce matin.
Je vois ça, oui, j'entends ça plutôt.
Oui, c'est bien. Alors, bonjour à vous deux.
Bonjour, mais pourquoi est-ce si drôle, Monique? Moi, je ris pas du tout. Je suis tellement contente pour vous.
Ben, écoutez, le téléphone ne dérougit pas, non, pas du tout. Alors, écoutez, je vous parle d'abord transport. Il y a de nombreux élus américains et québécois qui étaient réunis jeudi midi à la microbrasserie Hop Station de Coaticook pour démontrer la crédibilité du projet de train de nuit reliant Montréal et Boston. Alors, des élus des villes d'Island Pond au Vermont, Berlin au New Hampshire, ainsi qu'Auburn, Old Orchard Beach et Portland dans le Maine s'étaient déplacés à Coaticook pour donner leur appui au projet, dont l'objectif est de lier le centre-ville de Montréal au centre-ville de Sherbrooke. Et ensuite, ce train poursuivrait sa route vers certaines villes américaines durant la nuit pour terminer son périple aux petites heures du matin à Boston. Alors, la rencontre se voulait aussi un élément de visibilité pour le projet en période électorale, dont vous avez largement parlé. Des représentants, donc, de tous les partis politiques étaient présents et il y avait différents investisseurs privés qui pourraient prendre part à ce projet, dont Nicolas et Ray, qui a récemment acheté le train Orford Express. Je passe maintenant à une communauté dynamique et stratégique. Alors, ruchers, caveaux à légumes, serres éducatives, fermes urbaines, forêts nourricières, motels agricoles, les citoyens de Sainte-Camille en Estrie se sont inspirés d'initiatives d'un peu partout dans la province afin de dessiner ensemble le projet de communauté nourricière auquel ils aspirent. Alors, la petite municipalité d'environ 550 âmes, s'est tournée l'an dernier vers des chercheurs de l'Université du Québec à Montréal pour aller de l'avant dans son projet de communauté nourricière qui passe maintenant de la réflexion à l'action. 9 initiatives ont finalement été retenues par les résidents de Sainte-Camille qui se sont rassemblés en novembre dernier lors d'un premier forum citoyen, en juin lors d'un second forum citoyen. L'équipe de recherche a finalement présenté les conditions de réalisation ainsi que les retombées de ces projets dans les différentes communautés. Alors, ayant le désir d'inclure les jeunes du village dans ce projet de communauté nourricière, les citoyens de cette jolie municipalité ont montré un intérêt pour agricole, un programme agroalimentaire éducatif instauré dans une école du Lac-Simon dans le Bas-Saint-Laurent, qui a pour but d'initier les élèves à la culture de fruits et de légumes, entre autres, ainsi qu'à la transformation d'aliments. On pense aussi à l'élaboration d'un concept pour faciliter l'établissement de nouveaux agriculteurs en production fruitière, maraîchère et animale, en faisant l'acquisition de terres agricoles pouvant être louées à ces jeunes entrepreneurs. De plus, le rucher Boltonnet, un organisme à but non lucratif d'économie sociale, a attiré l'attention, tout comme les Pousses d'Octave, un projet éducatif et communautaire en horticulture et en agriculture qui met de l'avant les saines habitudes de vie et la nature. La communauté, donc, a dépassé l'étape de l'inspiration. Elle est en train de préparer les éventuelles actions en lien avec les différentes initiatives. Voilà un bel exemple de mobilisation citoyenne.
J'aime beaucoup ça, oui.
Sur le plan de l'information, maintenant, le journal pour ses 20 ans, le journal de rue de l'Estrie, s'est doté d'un nouveau site web. Alors, les lecteurs peuvent se rendre au jdestrie.ca pour accéder au journal de rue. Rappelons leur mission. Ce journal, fondé en 1999, est un organisme, bien sûr, à but non lucratif. La réintégration progressive à l'emploi ou la remise en action de personnes en situation de précarité, d'exclusion ou vivant des difficultés psychosociales, voilà leur mission principale. Il incarne une solution directe et concrète pour lutter contre les inégalités et favoriser l'inclusion sociale. C'est l'équivalent, en fait, de l'itinéraire à Montréal. Alors voilà, c'était un petit tour d'horizon des nouvelles de l'Estrie.
C'était exquis. Et si on vous fait des offres, Monique, vous m'en parlez. Puis
Oui, oui.
Non, mais
je n'hésiterai pas.
Mais Monique, vous allez quand même rester à Canal M, là, ça c'est sûr.
Oui, oui, bien écoutez, Canal M, c'est pour Monique.
Oui, oui, c'est ça. Alors, on se reparle la semaine prochaine, à bientôt.
Oui, bonne fin d'émission.
Merci. Du côté d'Ottawa, l'Université d'Ottawa s'apprête à réaliser l'investissement le plus important de son histoire pour créer un nouveau centre de recherche médicale à la fine pointe de la technologie. Une pierre angulaire du projet sera l'espace alloué à l'incubation et à l'accélération d'entreprises en démarrage, comme on le voit dans le secteur des technologies de l'information. Il y avait le Parti québécois aussi qui était à Gatineau et Paul Saint-Pierre Plamondon a parlé du transfert des fonctionnaires fédéraux dans un Québec libre, dans un Québec souverain. Du côté de Québec, Pauline Marois, on est allé voir Pauline Marois, ça fait 10 ans qu'il y a eu l'attentat, et elle parle de la violence qu'on observe du côté de la campagne électorale actuelle, et elle met l'accent sur les médias sociaux, c'est à lire dans Le Soleil. Dans la prochaine demi-heure, je vois Serge qui me fait un grand sourire, qui va nous parler de faire l'épicerie à moindre coût, et on va parler du crédit social. À bientôt.
Vous écoutez Au quotidien 5e édition avec Yvan Deslauriers et Francine Forgette.
Consomme, consomme. Consomme, consomme. Consomme, consomme.
Quand j'étais tout petit enfant,
consomme, consomme.
On me nourrissait de slogans.
Consomme, consomme.
Mange ton pablum si tu veux devenir un homme. Je suis venu au monde dans un des 7 plus riches pays de la planète. Et puis je rouspète, mais je sais bien dans ma petite tête que ça prendrait rien qu'une allumette pour que ça pète. Si je vivais aux États-Unis, j'aurais un plus haut niveau de vie, et puis tant pis. Mais pour me consoler, je me dis j'aurais pu naître en Birmanie ou en Russie.
Consomme, consomme.
Et quand j'étais adolescent,
consomme, consomme.
Mes parents me donnaient de l'argent,
consomme, consomme.
Pour que je m'achète des cigarettes,
consomme, consomme.
Bubblegum pis des albums,
consomme, consomme.
tout le kit du parfait petit bum. L'argent c'est fait pour faire des petits. Profites-en pendant que t'es en vie. Du rock, du fun, du sexe. Tu peux pas payer aujourd'hui. Mets ça sur ta carte de crédit. Masters, Diners, Chargex. Au lieu de faire des économies, pense-donc un peu à tes amis qui sont mal pris.
Consomme, consomme.
On n'a pas tous les jours 20 ans.
Consomme, consomme.
Je m'en suis payé du bon temps.
Consomme, consomme.
J'ai vu New York, Paris et Rome.
Consomme, consomme.
Bourlinguer sur la route du Rhum.
Consomme, consomme.
Et je suis devenu un homme. J'ai bu un verre dans le jet set. J'ai vu l'envers de la planète, c'était bellette. J'étais hippie pis maoïste. J'ai fini chez une psychanalyste, c'était bien triste. J'ai rencontré la femme que j'aime. Pis je suis rentré dans le système. Youpi, amen.
Consomme, consomme.
Et puis un jour, j'ai eu 30 ans.
Consomme, consomme.
À mon tour, j'ai eu des enfants.
Consomme, consomme.
Des petits tanins qui crient tout le temps.
Consomme, consomme.
Papa, maman, on veut de l'argent.
Consomme, consomme.
Des yo-yo, des bolos, des robots, des vélos.
Consomme, consomme.
Et bientôt des motos, des autos, des bateaux.
Consomme, consomme.
Des stéréos, des vidéos.
Consomme, consomme.
Robert Charlebois, consomme, consomme.
Quel choix de musique fantastique, mon cher Maurice. Merci beaucoup. Et là, je me retourne vers Serge Hamelin. Vous savez que pour la prochaine chronique, là, on va avoir toute une cote d'écoute.
Oui, hein?
Oui, parce qu'on a annoncé votre sujet de fin de semaine, je pense.
Ah, mon Dieu. Et tous les gens mangent en plus. Toujours. On a besoin de manger tous les jours.
Oui, oui.
T'sais, on n'annonce pas n'importe quoi d'autre, là. On annonce de la nourriture.
Oui, oui, c'est ça.
Et alors, à meilleur prix.
À meilleur prix. Alors, je vous laisse le micro.
Oui.
Et
alors,
on prend
allons-y.
Des notes.
Bon.
Mon crayon est prêt, moi. Là.
Oui, ben, vous prenez des notes. Alors, économiser 2 000 $ par année, rien de moins, en allant aux bons endroits pour acheter des produits.
D'accord. Vous avez le sens du punch, parce que commencer avec ça, ah, là...
Absolument, absolument. Ouh. Et puis c'est l'enquête que révèle le panier d'épicerie le moins cher se trouve à quel endroit, je vous le dirai un peu plus tard. Alors, les magasineurs de la revue Protégez-vous ont recueilli plus de 6 000 prix au cours des 56 visites dans les 6 principales chaînes de supermarchés à Montréal, Québec, Sherbrooke, mais pas Quaticook. Bon. Là, Sherbrooke, c'est pas loin.
Pour nos auditeurs, c'est parce que hors d'onde, on a parlé longtemps de Quaticook
avec ses supermarchés. Alors, leur panier type contenait 49 produits courants, comme de la laitue romaine, du fromage cheddar, du beurre d'arachide et du savon à vaisselle. Et pour être certain de trouver tous les articles de la liste, on a choisi les plus grosses succursales des chaînes, c'est-à-dire IGA Extra, Maxi et compagnie, Provigo Le Marché et Métro Plus, en plus de Walmart et Super C.
Donc, les suggestions que vous allez nous faire à partir de cet article-là, c'est accessible à tous partout.
Ah oui, presque, oui. Oui, bien sûr. Le bilan des courses, alors c'est 242 $ si vous optez pour les marques nationales.
Oui, oui, oui.
OK. Et puis, en part de ça, c'est ça.
Ça, c'est 242 $, c'est le coût du panier d'épicerie.
Oui, le panier d'épicerie quand on parle de marques dans les fruits et légumes, les produits laitiers, boissons végétales, les produits céréaliers, les viandes et autres aliments protéinés, les produits ménagers, pour un total de 242 $. Et où est-ce qu'on trouve ça? Eh bien, on trouve ça le moins cher chez Super C et Walmart.
Ah oui.
Et oui. Et puis après, il y a Maxi, après, il y a Provigo, il y a IGA et Métro. Alors, si on fait son marché, par exemple, l'économie de 15%, c'est une économie de 15% qui n'est pas négligeable au Canada. Une famille de 4 personnes dépense en moyenne 13 800 $ chaque année au supermarché, selon le rapport annuel sur les prix alimentaires. Alors, choisir les chaînes d'épicerie les moins chères pourrait donc vous permettre d'épargner environ 2 000 $ par année. C'est quand même pas rien.
C'est oui. considérable. Alors, c'est plus que 10%.
Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les spéciaux. Et d'ailleurs, ça revient d'après Jessica Laflamme, qui a le site Faire Plus avec Moins, mm-hmm. avec Facebook et tout ça. Elle, c'est son fun noir, là, tu comprends? Et puis, elle a des adeptes. Et puis, elle a les spéciaux tous les mercredis. Et elle s'est aperçue qu'à toutes les 3-6 semaines, les spéciaux revenaient à peu près pour les mêmes produits. Alors, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous nourrir à... Vous ne savez pas quoi manger, ben regardez les spéciaux.
Ah, oh, puis vous hein? allez avoir des suggestions.
Ben oui, des suggestions, puis le meilleur marché.
Qu'est-ce qu'on fait avec le
Alors, une semaine, poulet, c'est le poulet, une semaine, c'est le filet de porc, une semaine, c'est ci, une semaine, c'est ça. Mm-hmm. Y a une chose que j'ai appris en lisant cet article-là de la revue Protégez-vous, c'est que il parle de réduflation. Avez-vous entendu parler de ça?
Non, je suis tout
à fait. Eh bien, bienvenue dans le monde de la réduflation ou l'art de vous en donner moins pour votre argent.
Oh mon Dieu, je devine ce que c'est. On change la grosseur du...
Ben tout à fait. Et le consommateur ne verra pas à l'œil nu une réduction du format sous les 10%.
Elle le voit.
Bon, alors d'autant qu'on a des techniques pour le lui cacher, signale le professeur de l'Université Concordia. Et parmi elles, rendre plus concave. Ça, aviez-vous remarqué ça, vous? Rendre plus concave le fond d'un pot? Augmenter l'épaisseur du couvercle. Faire croire que le contenant est plus ergonomique ou plus svelte. Ajouter de l'air pour augmenter le volume de l'emballage, etc., etc. Et les entreprises sont maîtres pour nous faire avaler ces trucs. Par exemple, en 2016, le jus d'orange Oasis, là, tu sais,
oui.
Bon, eh ben, il était 1,65 litre. Ben aujourd'hui, il est 1,5 litre.
Mais moi, je m'en aperçois. Je fais beaucoup la cuisine à la maison.
Ouais.
Et par exemple, une soupe, et on dit ça prend 2 litres de bouillon de poulet. Alors, j'achète 2 contenants de bouillon de poulet, mais chaque contenant mesure 900 millilitres et non pas 1 litre.
Ah, tout à fait, oui. Oui, ils ont réduit les contenants, le contenu plutôt des contenants. Alors ici, dans la revue Protégez-vous toujours, il y a 18 façons d'économiser. Alors, déjouer les pièges du marketing, les produits sur les tablettes du haut et du bas sont généralement moins chers que ceux à la hauteur des yeux. On peut y trouver des marques moins populaires et faire un peu d'économie. Par exemple, planifier, ce que je vous disais tantôt, vos repas de la semaine en fonction des rabais hebdomadaires. C'est intéressant, ça.
Mm-hmm.
Ensuite de ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Choisissez votre épicier. Comme le montre l'enquête, vous épargnerez des dizaines de dollars en visitant les enseignes Super C, Walmart, Maxi et compagnie par rapport aux autres grandes chaînes. Portez attention aux promotions, ça, dans les pharmacies. Les pharmacies annoncent PharmaPrix, Jean Coutu.
Oui.
Ils ont des petits rayons alimentaires. On y trouve parfois d'intéressantes aubaines.
Ah, vraiment?
Ah, ben oui. Les biscuits Ritz, par exemple. Ben oui. À 2 $ la boîte lieu de...
Ouais, intéressant.
Il y a aussi le beurre de peanut, à 2,99 des fois. Remplacer les produits de marque nationale par les produits en solde, c'est sûr. Alors, tout ça mis ensemble fait que on va faire des belles, belles économies et on parle de Dollarama. Mm-hmm. Ah oui, Dollarama est vraiment, vraiment apprécié comme Costco. Costco, Dollarama, pour les Québécois, c'est l'endroit où on trouve les plus... Mais le problème, c'est qu'à Costco, ben, il faut acheter en grande quantité.
Mais Costco, je comprends, ça. Parce qu'il y a un très grand espace qui est dédié à l'alimentation.
Oui, mais il reste Dollarama, que... Ouais,
Dollarama, ça me questionne un peu.
Ouais. Chez Costco, par exemple, au rayon des bonnes économies au Costco, on a trouvé la laitue romaine, le jambon en tranche, l'huile de canola et la farine de boisson de soya. Ça, c'est des choses qu'on a trouvées. Puis au Dollarama, ils ont fait le tour des produits.
Oui.
Et finalement, au bout du compte, l'analyse montre que seuls 4 produits trouvés au Dollarama représentaient une réelle économie par rapport au prix moyen récolté pour le panier le moins cher. C'est-à-dire le savon, le maïs en conserve, le savon à vaisselle et le pain. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous allez chez Dollarama, le pain, là, il y en a, il est moins cher.
Il n'y a même pas de pain à mon Dollarama.
Oh mon Dieu.
Vous savez qu'il n'y a pas de pain. Moi, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a
comme,
ah non.
On voit qui fait les courses.
C'est moi. Bon. Vous saurez.
Alors, bon, alors Madame donc, Forget. Les supermarchés et Costco offrent par ailleurs souvent des prix comparables pour la majorité de ces articles lorsqu'ils sont en promotion. Alors, voilà. Alors, donc, si vous voulez aller magasiner, moi, j'ai ici la liste là, des meilleurs endroits. C'est Walmart, Super C en première et deuxième position. Ensuite, on a Maxi. Ah oui, puis ils disent aussi quand vous arrivez, puis c'est pas le prix plus cher ailleurs.
Le prix
ailleurs,
plus cher, on peut se faire rembourser la
différence. Vous demandez la légalité. C'est, chez Maxi, ça oui. fonctionne, cette chose-là.
Puis d'après les notes que j'ai prises en vous écoutant, le grand secret, c'est de se préparer avant.
Ah ben oui,
plutôt que de se rendre là.
Puis allez-y quand vous n'avez pas faim.
Ben,
parce
moi,
que quand vous avez faim, là, je te dis que...
ben moi, j'ai ma liste des repas qu'on va faire dans les 5 prochains jours.
Bravo.
Puis, puis je ne regarde pas ailleurs, je suis un gars.
Bon. Il faut aussi suivre très attentivement quand on est à la caisse et qu'on entre les objets, les produits qu'on a achetés, parce que maintenant, c'est plus la caissière, en fait, qui fait ça, hein, elle ne fait ou le caissier.
C'est le code-barre. Hein.
C'est le code-barre. Et souvent, les promotions n'ont pas été entrées.
Oui,
ça, moi, ça fait 3 fois que ça m'arrive, là, je dirais en 1 mois et demi à peu près.
Tout à
et
fait.
Là, il faut le signaler parce que là, à ce moment-là, ils doivent nous donner.
Oui, tout à fait.
Messieurs, dames, je dois arrêter
bon appétit.
La conversation ici. Bon appétit, merci.
Merci beaucoup.
Et on se reparle la semaine prochaine. Ouais. Merci, Serge.
Bye.
Parfois je tombe, la neige est tellement profonde, et l'hiver est éternel. Dans la vallée des chagrins, les morts sont parfois jaloux, de la vie qui nous donne tout, et de nos nombreux lendemains. Où va le temps, mais où va le temps qui passe? Où va le temps, les souvenirs qui s'entassent? Dans la vallée des fantômes, je reconnais des visages qui se perdent et qui s'en vont dans les écumes de mes rivages. Dans la vallée des ténèbres, là où le passé célèbre les bons et les mauvais coups de nos trop courts rendez-vous. Où va le temps, mais où va le temps qui passe? Où va le temps, les souvenirs qui s'entassent? Où va le temps, mais où va le temps qui passe? Où va le temps, les souvenirs qui s'effacent? Dans la vallée des fantômes, dans la vallée des fantômes, dans la vallée des fantômes, dans la vallée des fantômes. À faire encore trop de nouveaux décors, des vies qu'on s'imagine, la mort peut bien attendre. Je ne veux pas m'arrêter, hey, je ne veux pas m'arrêter, hey, 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 je ne veux pas m'arrêter, hey, je ne veux pas m'arrêter. Où va le temps, mais où va le temps qui passe? Où va le temps, les souvenirs qui s'entassent? Où va le temps, mais où va le temps qui passe? Où va le temps, les souvenirs qui s'effacent? Dans la vallée des fantômes, la vallée des fantômes, dans 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 la vallée des fantômes.
Sébastien Lacombe, La vallée des fantômes.
Merci beaucoup, Maurice. Marcel Dugas, bonjour.
Bonjour.
On parle de crédit social aujourd'hui.
On parle de crédit social, en
J'suis
effet.
Je suis pas très bonne dans l'imitation.
Non. Mais voilà, vous m'avez devancé parce que j'essaie de faire profiter les auditeurs et auditrices de l'émission de mon talent d'imitateur le plus souvent possible. Et là, je vais essayer de faire aussi bien que vous. Ça va comme
ça. Non, faites pas comme moi, non. Ça sera pas bon, Marcel. Les auditeurs vont fuir.
Je pense que vous allez être une vedette bientôt, là, je pense.
Ah ben, c'est ce qu'on on va le savoir dans quelques instants, là, si tout le monde a quitté l'antenne ou non. On charle le bon Dieu des écoles, mes chers amis, pour y rentrer des petits professeurs barbus qui sont des athées dans la plupart des cas. On charle le bon Dieu des écoles, on rentre le chèque. On charle le bon Dieu des écoles, on rentre la drogue. Et je suis sûr que vous avez tous et toutes reconnu Camille
Sanson. Oui, avez-vous perdu votre dentier, vous, là?
Non, j'ai fait bien attention quand je suis en onde. Il a été, évidemment, moqué, parodié beaucoup. Il a été aussi chef du ralliement créditiste et député à l'Assemblée nationale dans les années 1970. C'est un des personnages vraiment colorés de notre vie politique québécoise. Et j'ai questionné quelques personnes dans mon entourage. Camille Sanson semble passablement plus connu que le mouvement dont il était issu. Ça vaut donc la peine qu'on consacre quelques minutes au crédit social ce matin. La crise économique des années 1930 a été tellement dure, on a cherché des solutions de rechange au système en place, à droite, à gauche. Ici, au Québec et au Canada, l'autoritarianisme de droite et le communisme demeureront toujours des mouvements marginaux. Les années 30 ont produit deux mouvements qui sont devenus des forces politiques. Il y a eu le Parti socialiste nommé le Cooperative Commonwealth Federation, fondé en 1932, qui est devenu le nouveau Parti démocratique. Et l'année 1935 voit l'apparition du Parti du Crédit social, qui portera une panoplie de différents noms au fil des ans. Le parti est basé sur les théories économiques d'un ingénieur et économiste écossais nommé Clifford Hugh Douglas. Et le pilier central du crédit social, c'est que l'économie produit plus de biens que ce que les consommateurs sont en mesure d'acheter. Et c'est le rôle du gouvernement de contrebalancer l'insuffisance de pouvoir d'achat du public par ce qu'on appellerait aujourd'hui un revenu de citoyenneté et assurer une sécurité économique absolue à tous et à toutes. Il y avait beaucoup plus qu'une politique financière dans la doctrine du crédit social original, mais de notre point de vue à nous, c'est pas très utile d'examiner la philosophie de Douglas dans le détail parce que les partis politiques qui se sont réclamés du crédit social au Canada et au Québec l'ont surtout utilisé comme une marque de commerce sans être très fidèles à ses idées. L'histoire du crédit social au Canada commence en Alberta. Un prédicateur nommé William Aberhart va utiliser ses causeries radio et ses écrits pour propager des idées inspirées des théories de C.H. Douglas. Il est élu premier ministre de la province en 1935 avec une écrasante majorité. Il proposait un dividende de 25 $ par mois par Albertain et Albertaine, ce qui a rejoint l'électorat, mais ce n'était qu'une petite partie de son programme. On proposait aussi un plafond de revenus pour les individus. On voulait former les citoyens à des métiers utiles. C'était très directif comme gouvernement. Il a imposé un sévère contrôle aux banques et à la presse, surtout après qu'on se soit rendu compte que les coffres de la province étaient vides et qu'on n'avait pas les moyens d'offrir le revenu de citoyenneté comme on l'avait proposé. Après sa réélection en 1940, Aberhart a suspendu l'application du programme du crédit social jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale ne soit terminée. Mais il est mort en fonction en 1943 et ses successeurs ont évacué pas mal tous les éléments distinctifs du crédit social de leur programme. Et ensuite de ça, on a eu un parti de gouvernement qui était un parti conservateur sous un autre nom. Et on a vécu à peu près la même chose en Colombie-Britannique où on a également eu plusieurs gouvernements créditistes. Le crédit social aura aussi une présence sur la scène fédérale. Des années 1930 à la fin des années 1950, on fait élire entre 10 et 20 députés à chaque élection, surtout en Alberta. Et le parti sera toujours chevillé par des accusations d'antisémitisme, ce qui était un qualificatif qu'on attribuait très souvent à C.H. Douglas lui-même, incidemment. Au Québec, en 1939, Louis Évin et Gilberte Côté-Mercier fondent une organisation nommée les Pèlerins de Saint-Michel, qu'on a mieux connue sous le nom de Béret Blanc, ce qui était leur couvre-chef officiel. Et ce groupe-là prônait un catholicisme conservateur tout en reprenant plusieurs thèses du crédit social. Et on va présenter des candidats, tant au fédéral qu'au provincial, le plus souvent sous la bannière de l'Union des électeurs pendant les années 1940 et 1950. Et leur seul succès électoral survient en 1946, lorsque Réal Caouette se fait élire à Ottawa. et Alcaouette, c'est l'autre figure de proue du créditisme au Québec avec Camille Samson. Et les deux étaient dans le même moule. C'était des tribuns populistes colorés qui ont fait le délice des humoristes et des imitateurs au fil des ans.
Je m'excuse, Marcel. Monsieur Caouette, est-ce que c'est lui qui a dit « si on fait, il y a un précipice, puis faisons un pas en avant »
Bien, justement, cette citation-là a été attribuée à Caouette et à Samson alternativement. Et j'ai cherché et je n'ai pas trouvé l'origine de cette citation-là. Donc, c'est pas clair si ça a été dit véritablement. Les cyniques l'avaient fait.
Oui, ah, les cyniques, en tout cas, disent que oui.
Dans un sketch, c'est ça. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ça se pourrait que la parodie soit passée dans la réalité? Parce qu'effectivement, j'ai même vu des références à cette citation-là dans la section des commentaires du journal Le Figaro sur Internet. Donc, ça a vraiment, c'est vraiment devenu quelque chose en soi, mais c'est pas clair dans mon esprit si c'est une citation qui est apocryphe ou non. Bref, tout ça pour vous dire que Réal Caouette, au-delà de ses envolées oratoires, a bien failli se faire élire chef national du Crédit social en 1961, mais il semblerait que l'aile albertaine du parti a fait savoir qu'elle n'accepterait pas un chef francophone et catholique, et c'est ce qui lui aurait coûté la chefferie. Le seul petit problème, c'est qu'à l'élection fédérale de 1962, le dynamisme de Réal Caouette, chef de facto du parti dans la province, a permis au Crédit social de faire élire 26 députés au Québec sur une possibilité de 75, alors qu'on comptait seulement 4 députés créditistes au Canada anglais. Ça a amené à une scission au sein du parti, et le ralliement créditiste au Québec était toujours plus populaire que le social credit du Canada anglais. Caouette est décédé en 1976 et le mouvement ne lui a guère survécu. En 1980, tous les députés créditistes qui restaient à Ottawa ont été battus. Ça mettait fin à une période de près de 2 décennies où les créditistes ont formé le 2e plus gros groupe de députés québécois au Parlement fédéral à chaque législature, derrière les libéraux, mais devant les conservateurs. Et le parti provincial créditiste, pour sa part, a connu une bonne élection. En 1970, on remporte 12 sièges sous le leadership de Camille Samson. Mais un peu comme on a vu au niveau fédéral, il y a eu beaucoup de querelles entre créditistes au Québec. Il y a aussi eu des affrontements entre Samson et Caouette. C'est à cause de Caouette, pardon, que Samson s'est lancé en politique, mais ils ont été des frères ennemis plus souvent qu'autrement. Et les créditistes québécois sont rapidement passés de 12 députés à 2, puis à 1 seul. Et lorsque Samson est passé au Parti libéral en 1980, ça a été la fin du crédit social chez nous. Mais les créditistes de Québec et d'Ottawa, s'ils ne parvenaient pas toujours à s'entendre, défendaient des idées assez semblables. Un nationalisme québécois au sein du Canada, on réclamait un statut particulier pour le Québec, un meilleur contrôle des leviers économiques, contrôle de l'immigration, entre autres. Et il y avait un fort courant anti-élite, contre les banques. C'est un mouvement qui s'adressait aux gens ordinaires, qui a résonné surtout dans les campagnes. Incidemment, il n'y a jamais eu de député créditiste à Montréal. Et tout ça s'était teinté de conservatisme, autant fiscal que social. Et les partis créditistes, de même que leur tête d'affiche, ont toujours eu un petit quelque chose de folklorique, n'est-ce pas? Ce côté-là, iconoclaste, anti-politicien, ça vous aide jusqu'au moment où ça commence à vous desservir parce qu'on ne vous prend pas au sérieux. Et cette citation-là qui a été dite ou n'a pas été dite, dont on parlait il y a quelques instants, déjà le seul fait que les gens ont véritablement pensé que soit Camille Samson ou Réal Caouette pouvaient avoir dit ça, ça nous démontre probablement, Francine, qu'on avait un déficit de crédibilité dans ce mouvement-là, que ça a probablement été un frein à une possible progression du parti.
En tout cas, il traîne cette image-là, parce que nous, en studio, c'est pourquoi je vous posais la question, on se demandait qui était l'auteur de cette citation-là, si c'était M. Caouette ou M. Samson. Alors, en fait, Crédit social égale cette citation.
C'est à peu près une des rares choses qui reste dans l'esprit populaire, effectivement. Et ça, et les imitations qu'en ont fait les cyniques pour les un petit peu moins jeunes.
Bon, mais en attendant votre prochaine imitation, Marcel, on vous remercie et on vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Francine.
Une chanson à l'école. je vous parle d'une activité qui se tient en fait dans le cadre des 26e journées de la culture. Bon, les journées de la culture, je suis un peu en avance, là, parce que les journées de la culture, ça commence seulement fin septembre, en fait, à partir du vendredi 30 et tout le week-end. Il y a plusieurs activités dont on aura l'occasion de vous reparler à Canal M, ça c'est certain. Mais je vous parle de cette activité-là parce que les écoles, les classes peuvent s'inscrire à deux activités reliées à ce thème dont je vous ai parlé. Je pourrai vous en dire un peu plus au retour, mais sachez que c'est une chanson de Louis-Jean Cormier, « Les doigts en cœur », qui est maintenant en langue des signes québécoise. Alors, c'est extrêmement intéressant.
Et au retour, vous continuez sur ce sujet-là, je pense.
Bien oui.
Et vous nous parlez du côté technologique du petit Robert qui intègre
la langue,
de
toujours.
Mots de techno. Et moi, de mon côté, je vais parler avec Vanessa Anne Paré de Moelle Épinière et Motricité Québec. On va vous parler du souper-spectacle 75e anniversaire. Vous allez voir, il y a des gens très connus là-dedans. Ça devrait être intéressant. Et d'une sortie de randonnée à vélo à main à Québec. Alors, c'est notre programme pour notre prochaine demi-heure. On se reparle dans quelques instants.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forgette et Yvan Deslauriers.
Alors Francine, on revient sur la chronique technologie. Et c'est écrit sur ma feuille qu'il y a une deuxième partie sur la chanson en langue des signes québécoise.
Parce que j'ai pas dit grand-chose jusqu'à maintenant.
Ben oui,
je commence à... Ben, j'imite un peu Serge Hamelin, puis j'essaie de créer du suspense. Mais je dis un peu, là. J'ai pas encore mes lettres de noblesse.
Alors, bientôt, vous allez faire des imitations, vous avez des chroniques avec du suspense. Nos chroniqueurs commencent à déteindre, là.
Ben, je suis un peu perméable, je pense. Je sais pas.
Allez-y.
Je dois avoir beaucoup de plaisir à travailler avec eux.
Puis là, vous allez nous faire une chanson en langage des signes?
Là, ça ira pas jusque-là. Mais je peux me pratiquer, mais pas pour le moment.
À la radio?
Les doigts en cœur, comme je le mentionnais, l'œuvre de Louis-Jean Cormier, a été traduit en langage des signes québécoise par Julie Laroche. Et ça a été à la demande de l'école Gadebois. L'école Gadebois, c'est une école qui offre un enseignement primaire, préscolaire aux élèves sourds à Montréal et aux régions avoisinantes. Et pourquoi j'en parle à ce moment-ci, c'est que dans les journées de la culture, il y a un volet scolaire. Et dans ce volet scolaire, il y a deux activités. Il y a la chanson à l'école et il y a l'activité « J'aime les mots ». Dans les deux cas, les écoles s'inscrivent, les institutions s'inscrivent, et il y a des guides pour les enseignants. C'est vraiment clé en main, comme on le mentionne. Dans le cas de la chanson, c'est qu'on peut apprendre la chanson en deux versions, c'est-à-dire dans sa version originale et dans sa version aussi en langue des signes québécoise. Pour ça, on se rend sur le site. C'est long, là, l'adresse est longue, mais je vais essayer de vous la donner le plus clairement possible. Journée de la culture. Alors, journée sans accent avec un S, de la culture. Donc, tout ça en un mot, .qc.ca, / une, trait d'union, chanson, trait d'union, à, sans action, trait d'union, l'école, sans apostrophe et sans accent, tiret 2022.
Ce qui me fait penser que les gens qui voudraient réécouter notre émission, ils peuvent aller sur le site de Canal M et pouvoir réécouter cette portion-là pour pouvoir avoir l'adresse au complet.
Ça va peut-être être plus simple. Donc, ce que je disais, on peut apprendre la chanson et le 30 septembre en après-midi, il y aura une discussion possible sur Facebook avec Louis-Jean Cormier pour les jeunes. Il va répondre aux questions.
Et cette discussion-là, j'en sais rien, mais elle pourra être signée aussi, j'imagine, le cas échéant. Je
veux dire,
quelqu'un qui va comprendre la chanson en langage par signe pourrait poser une question de la même façon.
C'est fort possible. Je ne l'ai pas lu comme tel dans le communiqué qui nous est parvenu, mais c'est une bonne déduction.
J'en fais une suggestion. Hein, c'est pas...
L'autre volet, c'est « J'aime les mots ». Alors, vous allez à la même adresse que je vous ai donnée tantôt, là, puis vous allez retrouver « J'aime les mots ».« J'aime les mots », ça stimule la créativité des jeunes, mais leur fierté aussi de communiquer, c'est sûr, donc avec d'autres, en français. Et ce volet-là est marrainé par Léane Labrèche d'Or cette année.
Mmh.
Donc, à partir d'images qui sont tirées de collections, d'institutions culturelles du Québec et du Canada, les jeunes vont être invités à créer des mèmes.
Oh! Intéressant!
Très intéressant. Alors, je répète pas l'adresse parce que je vous l'ai donnée et c'est pas mal long, mais je peux le répéter si vous souhaitez, Yvan, parce que...
C'est Journée de la culture...
C'est pas facile à trouver, facile.
Si on cherche Journée de la culture école, on va-tu tomber dessus, vous pensez?
Peut-être, je sais pas. Ou peut-être aller voir sur la Fabrique culturelle de Télé-Québec.
Bonne idée.
Parce qu'ils sont en partenariat avec la Fabrique culturelle de Télé-Québec. Ça pourrait peut-être aider la cause.
Moi, j'ai plusieurs de mes cousins qui sont sourds et muets. Alors, c'est pour ça que c'est une initiative que je trouve vraiment intéressante.
Très intéressant. Et en plus, c'est une chanson qui a été enregistrée avec l'Orchestre symphonique.
Oui, oui.
C'est pas n'importe quoi. Sous la direction de M. Raphaël Payaré. Certainement.
On lit les mêmes choses.
Alors, puisqu'on parle de langue, n'est-ce pas, nous allons nous en remettre au nouveau Petit Robert.
Au dictionnaire
qui, comme à chaque année, les dictionnaires maintenant, là, il va falloir quasi les... Je sais pas si ça fait partie des stratégies de marketing, là, mais il y a beaucoup de nouveaux mots à chaque année.
Ça, ils ont repris ça de Apple, vous savez, quand Steve Jobs était là, puis il faisait ses grands messes, puis il disait « Ah, voici, on va lancer telle chose ». Les dictionnaires, on dirait, font la même chose.
Je ne sais pas, mais il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux mots. Alors, principalement, ce qui fait la manchette de cet article que j'ai recueilli sur BFM Techno et compagnie, c'est le fait que le mot « instagrammeur » et « instagrammeuse » entre dans le Petit Robert.
Oh, mon Dieu!
Alors,
au Scrabble, c'est pas pire, ça?
Oui, l'instagrammeur, c'est vrai que c'est bon, mais ça prend une bonne partance parce qu'il y a pas mal de lettres, je suis pas sûr.
C'est pas des lettres compliquées, mais ça prend beaucoup de lettres, effectivement.
Alors, c'est les nouvelles technologies, de plus en plus, il y a du vocabulaire et ça enrichit les dictionnaires. Cette année, outre instagrammeur, j'ai pas besoin de l'expliquer, là, c'est quelqu'un évidemment qui est sur Instagram. On a aussi ajouté les mots brouteur. Le brouteur, c'est un escroc qui piège ses victimes sur Internet.
Okay.
Alors, il broute pas comme les animaux qui peuvent brouter l'herbe, il s'en inspire probablement.
Je vois l'image, est-ce qu'il y a brouteuse?
Toujours.
C'est juste les garçons qui sont méchants.
Ben, vous savez comment c'est dans... Non, non, c'est... Ah, ça serait bon, ça. Mais réaction spontanée. Ben non, oui. Mais vous savez, dans les dictionnaires, c'est encore toujours la même chose. On va mettre le masculin et ensuite le féminin. On ne sait pas où. Peut-être que ça changera à un moment donné. Le coffre-fort numérique. Alors, le coffre-fort numérique, c'est un coffre-fort virtuel qui est accessible en ligne où on peut archiver, indexer des fichiers numériques à caractère confidentiel quand on veut, garder des contrats, des factures, et tout ça.
Un coffre-fort numérique.
En lieu sûr.
Vous avez ça, vous?
Vous googlerez coffre-fort virtuel. Écoutez, je vais être honnête avec vous. Moi, pour ça, j'ai un disque externe et tout est conservé sur un disque externe parce que, écoutez, je veux pas... Parce que
c'est ça.
Il y a du bon là-dedans, mais j'ai une petite méfiance. Il y a aussi NFT qui est rentré dans le NFT, les non-fungible tokens. Vous vous rappelez, les jetons qu'on achète et à partir de ça, on va pouvoir installer chez soi sur un écran une œuvre qu'on a vue numérique.
Oui, oui, oui.
Bon, cyberespionnage, c'est assez... c'est pas mal...
Hameçonnage, est-ce que c'était déjà là?
Oui, c'était déjà là. Un mot que j'aime beaucoup, c'est ubérisé.
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 Avec un U, pas un H.
U-B-E-R-I-S-E-R. En fait, c'est à connotation économique. Hein. Ça annonce la transformation numérique d'un secteur d'activité sur le plan économique, basé sur l'économie de partage. Et ça vient de Uber, bien sûr. Et enfin, un petit dernier, Geeker. Alors, c'est le maniaque.
Geeker.
On aurait pu dire geeker. Peut-être c'est geeker. Geek, le G-E-E-K.
Je comprends l'allusion. Oui.
Ouais, c'est le maniaque qui est toujours sur le net, soit en train de jouer ou de faire.
Des mauvaises
choses.
Je sais
pas quoi. Fait que vous voyez, hein, beaucoup de nouveaux mots et Larousse aussi fait la même chose.
Ouais, il y a une compétition là-dedans.
Ouais, il y a une compétition.
Merci, Francine.
Comme des milliardaires. Entre nous, antimatière, rien de secret, tout se part. En mille morceaux, les astres se brisent, on s'épuise. Les débris, la poussière et les crises, étoiles filantes. On voit les journées sombres à des années-lumière. Sans dessus, dessous. Jouer contre nous, changeons les règles avec lesquelles on joue. Viens déguiser au rendez-vous, quand, comment et où, pour se retrouver ma belle. Le temps est venu de se dire tout, de se dire tout et répondre. C'est la fin de semaine. Dans une accalmie éphémère, je m'ennuie encore de tes lèvres. Transit, seul dans la chambre d'hôtel. Je t'espère à ma fenêtre, c'est irrationnel. Prends un vol direct. Sous le tapis blanc qui font se cacher nos dossiers confidentiels. Qu'on en parle sur la place publique sans donner suite présidentielle. J'suis encore dans ma tête. Love my life, yeah. One last night, après la tempête. Dis-moi quand, comment et où, pour se retrouver ma belle. Le temps est venu de se dire tout et répondre à l'appel. Répondre à l'appel. Quand, comment et où, dans un univers parallèle. Le ciel est comme l'offre et la demande, on perd au change. Quand, comment et où, pour se retrouver ma belle. Le temps est venu de se dire tout et répondre à l'appel. Répondre à l'appel. Quand, comment et où, dans un univers parallèle. Le ciel est
Les avions de Mirabel par Claude Bégin.
Et on parle à Vanessa Anne Paris, qui est organisatrice communautaire, chef d'équipe intégration sociale à Moelle-Épinière et Motricité Québec. Bonjour Vanessa.
Bonjour Yvan, vous allez bien?
Très bien, merci. Et vous?
Oui, je vais bien. J'ai des belles choses à vous annoncer.
Oui, puis là, vous nous avez concocté un super spectacle assez étonnant et assez spectaculaire. Moi, j'ai croisé Emmanuelle Robitaille et elle a un sourire lumineux.
Oh! je suis contente que vous me disiez ça parce que justement, on a une rencontre avec elle cette semaine. Je dirais que ça avance bien. Tout n'est pas encore fixé du côté de la programmation, mais les gros morceaux sont là. Et on a très, très hâte. Là, on est vraiment dans le bain en ce moment.
Donc, ça se passe le 22 septembre.
Oui, jeudi le 22 septembre au Palais des Congrès de Montréal.
Et est-ce qu'il y a encore des billets de disponibles?
Absolument. En fait, on souhaite à la fois célébrer les personnes en situation de handicap, mais aussi convier la grande communauté. Donc, oui, évidemment, on doit, pour des raisons logistiques, fermer les inscriptions le 12 septembre. Donc, il reste une grosse semaine pour s'inscrire et on s'est assuré qu'il y aurait autant de places que de personnes volontaires et intéressées là, pour pouvoir accommoder les demandes.
Et puis là, vous êtes allé chercher vraiment une grosse vedette pour votre prestation artistique.
Oh my God, c'est tellement un bel addon de la vie, Jeannick Fournier.
Oui, oui, oui.
La grande.
C'est la gagnante en temps de Canada Got Talent, je pense. Hein?
Exactement. On n'aurait pas pu, en termes de ce qu'elle incarne, de valeur, d'humanisme, trouver vraiment une meilleure porte-parole. Dieu sait qu'on a cherché longtemps. Donc, quel artiste vraiment, parce que c'est important là, ce côté-là de valeur, parce que c'est un peu la raison d'être de l'événement. Puis mon collègue est extraordinaire. Mon collègue, il a décidé de qui faisait une demande à l'équipe de Jeannick en sachant que son agenda se remplit bouquet. Puis d'emblée, elle a accepté, elle a dit oui, ça me rejoint. Alors on est très, très content et choyé.
Et là, je me lance un peu dans le vide. Je ne connais pas la réponse, mais est-ce que vous avez prévu quelque chose de spécial pour souligner le 75e anniversaire de votre organisme?
Est-ce que je vends le punch? C'est mon dilemme. Jusqu'où je dévoile ce qu'il va y avoir dans la programmation? C'est sûr qu'il va y avoir des surprises, il va y avoir des blocs de contenu durant la soirée. Évidemment, le spectacle de Jeannick, mais on a aussi une autre prestation surprise qui va avoir lieu durant la soirée. On va avoir un hommage à des personnes qui va être fait. Ça, j'en dis pas. Puis, on a voulu aussi s'assurer qu'il n'y ait pas trop d'allocutions durant la soirée de prise de parole qui permettent aux gens aussi de réseauter puis de passer du bon temps aussi. Donc, c'est un peu tout ça qui est au programme puis qui est en train de se préciser.
OK, alors j'arrête la torture. Je vous laisse aller. Mais le mois prochain, par contre, je vous demande qu'est-ce qui s'est passé. Avant qu'on se laisse, il y a une activité que j'ai vue sur votre site aussi qui m'intéresse. Oui. Moi, je suis un cycliste, mais j'ai jamais fait de vélo à main. Alors, parlez-nous de cette activité-là.
Le vélo à main, c'est vraiment une initiative de mes deux collègues conseillers en intégration, Jean-Paul Dumont, qui est à Mémo Québec là, depuis, je dirais, à peu près 17 ans, qui est un mordu de vélo à main, et notre nouveau collègue qui est en poste depuis 2 ans, qui s'appelle Marc Beggs, que je ne sais pas si vous connaissez un peu le paracyclisme, c'est un athlète paralympique.
Oui, oui, oui.
Aussi. Donc, Marc et Jean-Paul, qui font une équipe incroyable, organisent des randonnées pendant la saison estivale. Et ça, ce sera la dernière de la saison qui va se tenir dimanche le 10 septembre à Québec, départ du stationnement de l'Institut en réadaptation physique de Québec, l'IRDPQ.
Oui, puis il y a un parcours de 20 km et un parcours de 40 km.
Oui, il y a comme un parcours un peu pour les gens qui veulent un peu pousser, qui ont plus la fibre compétitive, pas un parcours. Le 20 km, c'est plus un parcours de plaisance. Là. Disons, chacun y va à son rythme.
Fantastique. Alors, c'était Vanessa Anne Paré de Moelle Épinière et Motricité Québec. Alors, je vous invite à ceux qui ça intéresse. J'espère qu'on vous a intéressé au souper-spectacle du 75e anniversaire. Vous avez jusqu'au 12 septembre pour acheter un billet. Pour réserver un billet, alors...
On a réservé, oui. On a la chance d'avoir des merveilleuses commandites. Hein. Je sais qu'on a travaillé fort, mais on voulait s'assurer que ce soit accessible financièrement. Donc, c'est gratuit.
Fantastique. Et on s'en reparle dans un mois. Au revoir, Madame Paris.
Au revoir. À dans un mois. Merci. Empty spaces, what are we living for? Bound to places, I guess we know
The Show Must Go On par Jeannick Fournier.
Je pense, Maurice, que c'était la chanson qu'elle avait choisie pour la finale.
Possible, là, je pourrais pas vous répondre.
Je penserais que c'est ça, là, puis vous pourrez me lancer des roches si je me trompe, mais je pense que c'est avec ça qu'elle a gagné le concours Canada Got Talent.
Pas étonnant, quand on l'entend comme ça, là, très hein, concentré. Là.
Oui, oui, oui. Hein?
Hmm.
Francine, on regarde quoi en fin de semaine de votre côté?
De mon côté, écoutez, j'ai résisté depuis à peu près le début hein, de cette émission, depuis le début de cinquième... Non, depuis,
oh non,
le...
depuis oui, le début.
Je me disais, faut pas que je sois chauvine. Mais là, j'ai le goût de l'être et j'ai le goût de vous amener dans mon arrondissement, dans mon quartier et de vous amener dans le Vieux-Port. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'activités qui se terminent hein, avec le lundi de la fête du travail, comme on l'appelle, parce que c'est un long week-end qui nous attend. Un long week-end où la température va être pas si mal, finalement. Oui, il y a des probabilités de précipitations, des fois qui paraissent un petit peu élevées, mais ça va changer, ça va finir par être beau, beau, beau partout. Dans le Vieux-Port, il y a de multiples activités à faire. Hein. On a, sur le plan scientifique, par exemple, on peut aller au Centre des sciences, on peut aller voir un petit film sur les lions de mer, je pensais justement à vous, au cinéma IMAX.
Oh là là, oui, oui.
Il y a aussi, évidemment, les promenades sur l'eau, qui, elles, ne se terminent pas nécessairement le lundi de la fête du travail. Mais quand même, je vous dis, c'est là. Il y a la plage à l'horloge, dont je vous ai parlé quand même. Je me suis permis des fois, peut-être,
mais on savait
d'en
pas
parler
que c'était votre
un
quartier,
petit peu.
Là. On savait pas que vous étiez chauvine à ce moment-là.
J'ai fait ça comme... Comment on disait, fallait être objectif?
Oui.
Mm-hmm. Je crois pas beaucoup, mais...
C'est dans notre description.
Mais j'avais un beau prétexte pour vous amener dans ce coin.
Oui.
Il y a la multitude, donc, des événements. Comme je vous disais, il y en a pour tous les goûts, pour les familles, mais il y a aussi le World Press Photo.
Oh mon Dieu, oui!
Le World Press Photo qui a commencé au marché Bon Secours hier. Hier, c'était mercredi,
hier,
le 31 août.
Oui,
c'est ça. Le 31 août, c'est là jusqu'au 2 octobre. C'est au marché Bon Secours. Donc, c'est un magnifique édifice patrimonial. On parlait de patrimoine tantôt qui date de la fin du 19e, en fait, du milieu du 19e siècle, 1847. C'est un bel édifice à visiter, donc c'est un beau cadre pour cette édition qui est la 15e du WordPress Photo. Je ne suis pas encore allée la voir, mais je vais essayer d'y aller et d'en reparler la semaine prochaine. Mm-hmm. Mais j'ai un coup de cœur déjà en partant parce qu'il y a la porte-parole Caroline Monet. Caroline Monet, je vous en avais parlé à un moment donné, elle est représentée, c'est une artiste femme des Premières Nations et qui est représentée par la galerie Blue Indivision. Et j'avais été voir une série de portraits qu'elle avait réalisés que j'aimais beaucoup. Caroline Monet, elle est porte-parole et elle présente en fait une exposition qui s'appelle Ikwiwak, c'est femmes, semble-t-il, c'est le mot femme, et évidemment, c'est sur ces femmes des Premières Nations. En tout cas, c'est invitant. Les prix, bon, ben, c'est pas gratuit, mais ça vaut la peine et c'est quand même pas si cher. Les 65 ans et plus et étudiants, c'est 12 $. Les autres, c'est 15 $. Et les enfants, c'est gratuit. Et on ne peut pas acheter nos billets en ligne, comme on dit en bon français. Non. Il faut les acheter sur place.
Sur place?
Sur place. Mon
Dieu. Je suis déjà allé. Les photos sont vraiment extraordinaires, mais il faut pas y aller un jour où on est dépressif parce que c'est souvent des photos qui regarde le monde dans ses travers, pas toujours.
C'est de la photo, oui. C'est du photojournalisme, là.
Oui, c'est
WordPress,
ça, exact.
WordPress, hein?
Oui. Mais c'est un parcours, c'est une visite vraiment, vraiment intéressante.
Et c'est instructif et ça nous rappelle des grands événements internationaux qu'il ne faut pas oublier.
Oui, tout à fait. Mais effectivement, si un jour on ne sent pas joyeux, c'est peut-être pas l'endroit pour aller chercher de l'énergie. Là. Voilà. C'est-tu mon côté?
Allez-y, Yvan. Ben oui, je vous en laisse un petit peu de temps parce que la semaine prochaine, peut-être que vous ne serez pas là.
Peut-être que je ne serai pas là, oui. De mon côté, je vous invite, si vous n'êtes pas loin de votre poste de télévision ou sur votre tablette, ou Dieu sait comment vous regardez maintenant la télévision, Serena Williams joue à 19h ce soir. Et c'est un spectacle qu'on aime cet athlète ou pas. Moi, je suis plutôt du côté du ou pas. Mais je dois avouer que son parcours actuel est assez spécial. On sait que c'est son dernier tournoi. On sait qu'elle va prendre sa retraite. Mais elle fait ça avec, comme dans sa carrière, avec éclat. Et ça vaut vraiment le coup d'œil. Je vous le dis.
Votre prédiction, Yvan?
Je pense qu'elle va gagner encore.
Encore?
Oui, elle va se taper la deuxième semaine du US Open. Elle ne gagnera pas le tournoi, non, ça c'est sûr. Mais je pense qu'elle va. Elle a le sens du spectacle pour se rendre en deuxième semaine. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est qu'il y a des spectacles de lumière un peu partout. Et on a vu que la noirceur commence à arriver beaucoup plus tôt.
Et là là!
Avec l'arrivée de septembre. Alors, je vous parle rapidement de quelques spectacles de lumière. On a parlé de Coaticook tantôt. Alors, direction le parc de la gorge de Coaticook en Estrie pour découvrir à travers cette autre production de Moment Factory, l'âme de Margaret, qui a vécu aux abords de la forêt il y a des décennies. Elle possédait un don rare, celui de voir ce que les autres ne voyaient pas. Ce parcours nocturne illuminé nous invite ainsi à entrer dans un monde inspiré de l'héritage imaginaire de la région. Ça dure jusqu'au 9 octobre, puis les départs ont lieu entre 18h50 et 19h50. Il y a des tarifs, vous pourrez regarder ça, ça s'appelle Foresta Lumina. Il y a les jardins de lumière au jardin botanique. Ça, c'est bon jusqu'au 31, hein, jusqu'à l'Halloween, il me semble que ça dure. Moi, ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas allé, alors ça, c'est quelque chose qui est sur ma liste. Il y a Tonga Lumina. Ça, c'est à moins de 2 heures de Montréal, une production signée Moment Factory. C'est dans le bout de Mont-Tremblant. Et il y a Aura à la Basilique Notre-Dame. Ça vaut vraiment la peine d'y retourner. Moi, je suis déjà allé puis j'avais beaucoup aimé ça.
Alors, merci à tous pour cette magnifique émission. Encore une fois, je dis magnifique parce que il y a la participation, on vous sent à l'écoute. On a tellement des chroniqueurs intéressants. Oui. Merci à Maurice Bolduc qui nous a accompagnés musicalement. Et à vous, cher Yvan, vous allez me manquer la semaine prochaine.
Oui,
on se retrouvera bientôt.
J'ai un empêchement, ça fait partie de nos... de nos petites chicanes de couple, là, vous et moi. Mais on se revoit dans deux semaines dans ce cas-là.
Mais c'est pas à cause d'une chicane que vous venez
non,
pas
non,
la
non,
semaine
non,
prochaine.
Non, pas ça du tout. Au revoir.